le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Un coup d'État peut avoir lieu pour différentes raisons et pour des objectifs très divers. De même que certains soulèvements populaires instrumentalisés à l'insu de ceux qui se soulèvent. À maintes reprises, des objectifs proclamés se sont révélés produire l'exact contraire de ces proclamations. Dans ce billet, nous reprenons le cours du questionnement au sujet des multinationales pour le reporter sur l'éventuel lien qui peut exister entre celles-ci et des pouvoirs nationaux. Ce billet évoquera le problème d'un projet national d'industrie du lithium initié par le président de la Bolivie, ce projet risquant d'être torpillé par un coup d'État. Ce texte, écrit par l'envoyé spécial du monde diplomatique Maël Mariette et publié dans le numéro de janvier 2020, montre une fois de plus à quel point il est difficile actuellement de privilégier les intérêts d'une nation et de son peuple au détriment des intérêts privés des grands conglomérats. Et si, dans ce cas, il s'agit du désir d'un souverain d'aller dans l'intérêt de son peuple, n'oublions pas les cas sans doute nombreux où une oligarchie nationale s'allie avec les multinationales en vue d'en retirer les bénéfices personnels juteux. Mais découvrons à présent, avec cette lecture de Jean-Luc Rochat, à quelle sauce la filière lithium en Bolivie risque bien d'être mangée.
Un projet d'industrie nationale torpillé par le coup d'État. En Bolivie, la filière lithium à long camp. En octobre 2019, un coup d'État a renversé le président bolivien Evo Morales. Alors que le gouvernement de facto promet des élections pour le mois de mars, l'un des projets les plus ambitieux de l'ancien dirigeant semble d'ores et déjà enterré. Permettre à la Bolivie de ne pas se contenter d'exporter le lithium dont elle est riche, mais d'en assurer elle-même l'industrialisation. D'un côté, le pays le plus pauvre d'Amérique latine. De l'autre, une technologie de pointe que ne maîtrise presque aucune nation du Sud. A priori, rien ne permettait d'imaginer que la Bolivie prétendrait un jour devenir l'un des acteurs clés du marché du lithium, un métal alcalin indispensable à la production de batteries. La découverte du plus grand gisement mondial de cet or blanc dans le Salar d'Uyuni, l'immense désert de celle de l'Ouest, aurait pu conduire à un phénomène que le pays connaît bien, l'exploitation par d'autres d'une richesse enfouie dans son sol. Mais le président Evo Morales, élu en 2006 et renversé par un coup d'État en octobre 2019, avait imaginé un autre scénario, une exploitation du lithium qui ne profiterait pas aux multinationales du Nord, mais aux Boliviens. La fin du jour approche. Un vent glacial balaye le Salar d'Uyuni. Nous sommes devant le complexe industriel de production de lithium et de chlorure de potassium de Lipi, à l'été 2019. Ici se joue l'avenir du pays, piloté par l'État, l'unité pionnière d'exploitation et d'industrialisation doit élever le pays au rang d'Arabie saoudite du lithium. Comme aime à le répéter le vice-président Alvaro Garcia Linera, désormais exilé en Argentine. La planète compte peu de solars, site privilégié de l'exploitation du lithium, alors que la demande explose. Le moindre smartphone en contient de 2 à 3 grammes. Pour une voiture électrique, comptez une vingtaine de kilogrammes. On estime que 260 millions de voitures dites propres circuleront en 2040 contre 4 millions aujourd'hui. La demande mondiale de lithium d'environ 300 000 tonnes en 2018 devrait atteindre 1 million de tonnes au cours des 10 prochaines années. Déjà, les prix ont quadruplé en 3 ans, s'envolant à 20 000 dollars, 18 000 euros, la tonne en 2018, avant un léger recul en 2019. Dès lors, la petite commune de Lipi attire les regards du monde entier. Il y aurait 21 millions de tonnes de lithium sous les 10 000 km² du Salar d'Uyuni, une promesse d'abondance, mais au bénéfice de qui? De la colonisation espagnole, quand des millions d'Indiens sont morts dans les mines d'argent, jusqu'au XXe siècle, lorsque les mines d'or de tungstène et d'étain ont fait la fortune d'exploitants étrangers, aucune des richesses du sous-sol bolivien n'a jamais profité aux populations locales. Pas question de se laisser spolier de nouveau, avait déclaré M. Morales au début de son premier mandat. Dès son arrivée au pouvoir, il défend l'idée d'une extraction 100% nationale. Son ambition, exporter le lithium non à l'état brut, mais transformé en batterie produite sur place, à plus forte valeur ajoutée. Si elle y parvenait, la Bolivie deviendrait l'un des rares pays du Sud à prendre en charge l'ensemble d'une chaîne industrielle. Exploration et extraction de la matière première, traitement des saumures, élaboration de composés de base, carbonate de lithium, mais aussi chlorure de potassium, sous-produit du processus d'extraction du lithium, utilisé comme fertilisant et largement destiné au marché brésilien. Puis fabrication de biens intermédiaires, cathode, ainsi que de biens de consommation finale, batterie lithium-ion. En 2008, le gouvernement a donc impulsé un plan national d'industrialisation des ressources dites évaporitiques. Le lithium, surtout, mais également d'autres minéraux présents dans la saumure, comme le potassium, le bore, etc. Sous l'égide d'une entreprise nationale, Yacimientos de Litios Bolivianos, YLB. Notre politique consiste à nous assurer que les matières premières sont exploitées par des entreprises d'État, nous explique en cet été 2019 M. Luis Alberto Echassou, qui est encore vice-ministre des hautes technologies énergétiques, chargé du projet depuis ses débuts. La démarche implique de développer une technologie nationale afin de ne pas dépendre de multinationales et de brevets étrangers. Pour y parvenir, l'État a déboursé près de 1 milliard de dollars, près de 900 millions d'euros, soit l'un des investissements les plus importants de l'histoire du pays. Mais le plus grand défi n'est pas financier. Sur le plan technologique, il a pratiquement fallu partir de zéro, nous raconte M. Echassou. Seules deux universités abritaient des laboratoires de chimie travaillant un peu sur les ressources évaporitiques, complète M. Oscar Mamani, chef des opérations de l'IPI, qui vivait à l'étranger au moment du lancement du projet et qui est rentré au pays à cette occasion, comme plusieurs autres ingénieurs boliviens. Nous avons épluché la littérature scientifique et nous avons tâtonné, sans aide extérieure. Nous sommes tous devenus chercheurs, en somme. À l'IPI, le lithium est transformé en carbonate de lithium de qualité batterie. À la Palca, à 200 km de là, ce carbonate entre dans la fabrication de matériaux cathodiques, puis de batteries lithium-ion. Cette dernière étape, la production de biens de consommation, s'avère la plus difficile. Il faut mesurer l'ampleur du défi, commente M. Marcelo González, le directeur de l'usine pilote de batterie. Non seulement c'est l'unique usine de batterie d'Amérique latine, mais nous avons dû former l'ensemble du personnel. Outre l'acquisition des équipements nécessaires, fabriqués au Japon, en Europe ou aux États-Unis, il aura en effet fallu développer les compétences nécessaires pour les utiliser. À l'image du directeur du centre de recherche, M. Marcelo Saike, qui revient du Brésil, les travailleurs doivent se rendre à l'étranger pour butiner des formations introuvables en Bolivie, notamment grâce à un programme gouvernemental de bourse permettant à des chercheurs de se perfectionner dans des secteurs stratégiques, dont celui du lithium. Mais la Bolivie n'est pas une île. Paradoxalement, son projet d'indépendance doit s'accompagner d'un effort visant à tisser des liens avec des transnationales qui barrent l'accès à certaines technologies et à certains marchés. Il s'agit donc d'identifier des partenaires qui ne se comporteraient pas en donneurs d'ordre, ce qui n'est pas l'attitude de prédilection des grandes sociétés. Dans cette perspective, M. Echassou énonce les cinq conditions que doivent remplir les partenaires d'YLB. Accepter la participation majoritaire de l'État bolivien, 51%, assurer l'industrialisation du lithium, conduisant à une chaîne de produits à haute valeur ajoutée, apporter un financement, assurer l'accès à un marché à l'étranger et garantir un transfert de technologies et de connaissances, notamment à travers la formation du personnel bolivien. Si des entreprises japonaises, chinoises, sud-coréennes et françaises ont manifesté leur intérêt, les choses se sont parfois avérées compliquées. Comme dans le cas de la société Bolloré, Vincent Bolloré est venu en 2008, nous raconte Oscar Vargas Villasson, économiste, qui fut à l'époque chargé de recevoir la délégation du patron français. Il a rencontré Evo Morales, l'a invité à Paris, et l'a même emmené faire un tour sur les bords de la Seine dans l'une de ses voitures électriques. Son projet a été étudié avec attention, mais son côté très France-Afrique, très condescendant, n'a pas plu. Monsieur Etchassou s'amuse. L'entreprise Bolloré n'a pas compris notre philosophie. La seule chose qui l'intéressait, c'était nos matières premières. L'entrepreneur français s'est finalement tourné vers l'Argentine, où les conditions proposées lui convenaient davantage. Concessions privées, aménagements fiscaux, normes environnementales peu contraignantes. De nombreuses multinationales ont refusé de sortir du seul cadre économique qu'elles tolèrent, et que résume M. Erwin Borja Segovia, alors directeur du complexe de la Palca. J'exploite, je paye des impôts dérisoires, j'emporte la matière première et, avec elle, la valeur ajoutée. En août 2019, le gouvernement bolivien conclut un partenariat avec le consortium chinois Xinjiang TBEA Group pour exploiter les salars de Coipasa et de Pastos Grandes. L'accord comprend également la construction d'une usine de batteries lithium-ion en Chine, avec la participation d'YLB. Le marché de l'avenir, c'est la Chine, s'enthousiasme Vargas Villasson. Elle a annoncé qu'en 2025, toutes les voitures du pays seraient électriques. Avec 60% du marché des batteries, elle est déjà le plus gros consommateur de carbonate de lithium du monde. Des négociations ont été menées avec l'Inde et la Russie, mais l'espoir a longtemps reposé sur la signature, fin 2018, après 10 longues années de négociations, d'un accord avec l'Allemand ACI Systems. Créant la première entreprise mixte du pays dans le secteur YLB à Sisa, le partenariat ainsi conclu ouvrait le marché européen au lithium bolivien et répondait à un besoin stratégique de l'industrie automobile allemande, la plus importante d'Europe, qui ne produit pas de batteries. L'objectif affiché, envoyer en Allemagne fin 2023 ou début 2024 les premières batteries de voitures électriques, déclarait M. Etchassou début 2019. Il va y avoir beaucoup de pression. Lorsque nous le rencontrons, quelques mois plus tard, son enthousiasme s'est toutefois évanoui. Nous sommes en train de nous battre avec les Allemands, car ils reviennent sur le contrat. Ils ne veulent plus faire de batteries ici, car ce n'est pas rentable, disent-ils. Fabriquer les batteries en Bolivie implique en effet d'importer l'ensemble des intrants nécessaires. Parvenir à les fabriquer sur place prendrait du temps, étant donné la pauvreté des infrastructures à partir desquelles il faut faire émerger les lignes de production. Mais une seconde difficulté grève la compétitivité de la production bolivienne. Le coût du transport, dans un pays dépourvu d'accès à la mer. D'où le combat de M. Morales auprès de diverses juridictions internationales pour obtenir un accès souverain à l'océan Pacifique. Depuis longtemps, la presse invite la Bolivie à abandonner ses ambitions, condamnées à l'échec, car le pays ne disposerait pas des capacités requises et, surtout, ne comprendrait pas le monde des affaires. Omniprésent dans les médias sur le sujet, un certain Juan Carlos Zuleta, membre de la Commission nationale chilienne du lithium, se présente, lorsque nous le rencontrons, comme chercheur indépendant, titulaire d'un doctorat en économie obtenu aux États-Unis. Il est surtout analyste boursier et consultant pour des multinationales liées à l'exploitation du précieux métal alcalin, notamment au Chili, deuxième producteur du monde. Il est également conseiller du comité civique de Potosí, la région où se trouvent l'IPI et la Palca, particulièrement actif lors du coup d'État d'octobre 2019 contre M. Morales. Selon lui, inutile d'imaginer exploiter le lithium en Bolivie, seuls les États-Unis possèdent la technologie requise. M. Morales accordait une grande importance à son projet d'exploitation et d'industrialisation du lithium, car il le concevait comme un outil de conquête et de défense de la souveraineté nationale. On sait qu'il va y avoir beaucoup de pression sur la Bolivie, nous expliquait encore M. Etchassou l'été dernier. C'est toujours comme ça. L'impérialisme se met en quête de ressources et quand il le faut, il n'hésite pas à agresser ou à envahir tel ou tel pays pour mettre la main dessus. Nous savons que cela peut nous arriver. Évidemment, si la droite devait revenir au pouvoir, les choses seraient plus faciles pour les multinationales. En Bolivie, elle a toujours pensé qu'il fallait mieux privatiser. Il fait peu de doute que telle sera la voie choisie par le gouvernement de facto de Mme Jeanine Agnès, de même que par le gouvernement qui émergera du scrutin de mars organisé par les putschistes.
À la conception de l'émission, à la réalisation et à la mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Éditeur responsable, Patrick Rion. En partenariat avec Radio Django, qui permet la diffusion des émissions de Tout le monde est beau. Hmm.